Est-ce que le PowerPoint de la prédication arrive? Merci beaucoup. Alors, c'est un jour de joie aujourd'hui et je risque de plomber un peu l'ambiance parce que c'est un jour de joie, mais la guerre en Ukraine, les menaces de plus en plus poussées de Vladimir Poutine envers l'Occident, les viols de Mazan, le conflit israélo-palestinien, l'exécrable climat politique mondial toujours plus polarisé, les inondations en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, l'été en octobre, l'hiver en novembre, puis le printemps, puis à nouveau l'été, la montée des extrêmes de tous bords, religieux et politiques. Il fait nuit à 18h et on sait qu'au cœur de l'hiver, ça sera à 16h30. On sera plongé dans l'obscurité jusqu'au lendemain matin, à une heure qui nous paraîtra trop tardive. Il fera nuit quand on ira travailler et il fera nuit quand on en sortira. Le vent s'engouffre dans les blousons, on peine à se défaire de l'humidité et on sent que la misère des autres pose son regard sur nous qui vivons au chaud de manière plus insistante alors que Noël et ses extravagances approchent. On est le premier dimanche de l'Avent, ça a été dit, et en décembre, il semble que l'actualité et le climat s'accordent. La nuit et le froid s'abattent sur nos contrées et dans notre âme, qui peine maintenant à trouver de la motivation, de l'enthousiasme, du cœur à l'ouvrage. Et je crois qu'on l'a entendu déjà ce matin, mais c'est là que nous pouvons être rejoints, en tout cas si on le souhaite. Parce que c'est là, au cœur de la nuit, que la lumière la plus ténue se voit le mieux. Alors si une toute petite bougie peut éclairer toute une pièce, que dire en ce premier jour de l'Avent de la lumière du monde ? Ça passe pas. Ça va passer, mais ça ne passe pas. Ça y est. Ésaïe 9, 5 et 6 disent « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. » Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Je vais prier. Ça passe toujours pas. Merci. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vraiment lumière dans les ténèbres. Quand on regarde autour de nous, parfois on se désespère, et quand on regarde à ta parole, on est surpris par l'espérance. Seigneur, je te prie pour que ce matin, cette parole soit reçue comme une parole d'espérance, parce que c'est ce qu'elle est, une parole qui ouvre l'horizon. Seigneur, je prie de briser en nous les barrières qui nous empêchent d'entendre, qui nous empêchent d'écouter, pour que ta parole puisse faire l'effet que toi tu souhaites dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule, on l'appelle conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. C'est un texte qui est bien connu des chrétiens et on aime ce texte parce qu'il nous évoque la naissance du Christ, parce qu'évidemment c'est bien de lui qu'il s'agit. Le prophète Ésaïe parle ici du Sauveur qui devait venir. Et nous, on le connaît ce Sauveur. Son nom c'est Jésus, Yeshua en hébreu, ça veut dire Dieu sauve. Et Ésaïe, ici, l'annonce 7 siècles plus tôt et avec ses paroles nous viennent, je crois, les images un peu romantiques de Jésus dans sa mangeoire, là-bas dans les tables de Bethléem, avec Joseph et Marie qui posent sur lui leur regard tendre de jeunes parents. On a en tête l'image bucolique des animaux de ferme qui tiennent la famille au chaud, et puis les bergers qui sont là dehors, curieux de cet enfant qui vient de naître. Bref, c'est Noël, c'est beau, on est bien. Mais on peut se dire aussi parfois que ça n'a pas grand-chose à voir avec le monde froid et dur qui nous entoure. Pour certains, toute cette période est une espèce de parenthèse enchantée, un moment pour oublier la misère du monde. On se gave de chants de Noël, des décorations, des films de Noël où il est question de rencontres romantiques sous la neige qui tombe à New York. Et pour d'autres, au contraire, c'est le moment de la plus grande solitude. Alors que toutes les familles s'engouffrent au chaud dans leur foyer, eux sentent le poids de leur célibat non choisi, de la distance avec les enfants, les petits-enfants, de l'impossibilité financière de participer à la grand-messe des cadeaux au pied du sapin. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Peut-être que cette parole qui a été prophétisée il y a 2700 ans et réalisée maintenant depuis 2 millénaires a plus de choses à nous dire qu'il n'y paraît, parce qu'au moment où Ésaïe écrit ces lignes, en fait, l'ambiance n'est pas du tout à la fête. Ça ne passe toujours pas, et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il n'y a plus de piles. Oui, mais c'est, voilà, c'est pas moi qui fais passer. Donc j'abandonne ça, puis je te ferai signe. Ça va être moins fluide, mais ce n'est pas grave. L'ambiance n'est pas à la fête. Le royaume d'Israël, au moment où il écrit ces lignes, est divisé en deux. Lui, Ésaïe, vit sur le territoire de Juda, au sud, sous le règne d'un roi qui s'appelle Akaz, qui est un roi mauvais, qui ne suit pas les conseils de l'Éternel. Tu peux passer. Ce petit royaume de Juda, il est entouré d'autres royaumes. Parmi eux, il y a le royaume du Nord, d'abord, qui est devenu un frère ennemi. Et puis, donc qu'on appelle le royaume d'Israël ici sur la carte, et puis encore un peu plus au nord, il y a le royaume d'Aram qui se situe au milieu de la Syrie actuelle. Et les rois d'Israël et d'Aram ont une idée. En fait, ils veulent s'allier avec le roi de Juda pour résister plus efficacement à la montée d'un autre royaume qui est franchement redoutable et inquiétant, et tu peux passer, c'est le royaume d'Assyrie, en orange sur la carte. Alors à ce moment-là, a priori, c'est sur les... Son extension se limite aux deux oranges les plus foncés, mais effectivement, ensuite, il va s'étendre à tout ce qui est orange là, sur la carte. Donc, on voit bien effectivement la menace qu'il représente. Et donc, les rois d'Israël et d'Aram veulent s'allier au roi de Juda, sauf que le roi Akaz, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Alors qu'à cela ne tienne, puisqu'il ne veut pas s'allier par la diplomatie, les rois d'Israël et d'Aram comptent le faire plier par la guerre. Ils veulent faire tomber Akaz et placer là un autre roi qui, lui, sera favorable à leur volonté d'alliance. Et donc les voilà qui assiègent Jérusalem avec leurs troupes. Alors, que faire? Où trouver le salut dans cette situation? Vous allez être attaqués, vous êtes assiégés, vous allez être attaqués. En Juda, c'est panique à bord. En Ésaïe 8-19, il faut passer la diapo, Ésaïe s'insurge contre le peuple. On est dans ce contexte-là et il dit « Si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consulte-t-il pas ses dieux? Ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants? À la loi et au témoignage, dit Ésaïe. » C'est-à-dire, nous, on ne mange pas de ce pain-là. Nous, on est dans la détresse, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour fricoter avec les devins, avec ceux qui consultent les esprits, avec ceux qui se tournent vers leurs idoles. Nous, on se tourne vers la loi de Dieu, vers le témoignage des Écritures, on se tourne vers l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. On se tourne vers notre Dieu. Et si on ne parle pas ainsi, ajoute-t-il, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il se tournera vers le haut. Puis il regardera vers la terre, ce sera la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Le peuple cherche donc son salut dans la consultation de médiums, d'entités spirituelles et d'idoles, c'est-à-dire de faux dieux, c'est-à-dire de démons. Et le roi, où cherche-t-il, lui, son salut? Akaz aurait pu se tourner vers Dieu, vers l'Éternel, mais il va faire un choix plus raisonnable. Pourquoi s'allier avec les plus faibles contre le plus fort, quand on peut en fait s'allier avec le plus fort contre les plus faibles, puisque c'est eux qui menacent? Et donc c'est vers la Syrie qu'il va se tourner pour obtenir de l'aide. pour être débarrassé de cette menace immédiate des rois d'Israël et d'Aram. Et ça va marcher, en fait. Ça va marcher, dans un premier temps en tout cas. Les royaumes d'Aram et d'Israël vont effectivement tomber devant l'empire assyrien, mais rien n'est gratuit. Juda devient le vassal de l'empire assyrien. Et lorsqu'une centaine d'années plus tard, les Assyriens vont se faire écraser à leur tour par les Babyloniens, Juda va faire partie du lot. Donc Ésaïe avait raison, le jour est venu où il n'y a pas eu d'aurore pour le peuple, où il a dû traverser le pays accablé, affamé. Les Babyloniens ont déporté une partie du peuple pour calmer toute velléité de rébellion. La détresse, l'obscurité et de sombres angoisses se sont effectivement abattues sur lui. Bref, quand Ésaïe prophétise la venue d'un sauveur, on est loin, en fait, de l'image d'Épinal du petit Jésus dans sa crèche, dans ce contexte-là. On est vraiment dans le dur d'un contexte de guerre où le peuple est en danger de mort. Il fait nuit dans la vie des Judéens. Ils sont perdus comme des brebis sans berger et tout à leur peur, ils vont prendre de mauvaises décisions qui vont les mener à leur perte. Alors vous me direz en quoi ça me concerne, toutes ces histoires de guerre d'il y a quasiment trois millénaires. En premier lieu, on pourra peut-être noter que l'humanité n'a pas tellement changé depuis. Des empires qui cherchent à s'étendre en envahissant le pays voisin, il me semble qu'on en a un exemple assez proche, assez concret, qui fait l'actualité tous les jours. La menace peut-être nous semble un peu plus lointaine, mais elle est aussi plus effroyable. On ne se bat plus avec des épées, des arcs et des flèches aujourd'hui. Alors, je dirais que rien que pour ça, ça nous concerne un petit peu, ce texte. Et puis, ça nous concerne aussi pour une autre raison, peut-être plus profonde et plus proche, celle-ci, qu'on trouve en Ésaïe 8, 23. Elle ne saute pas aux yeux tout de suite, mais vous la verrez. Ésaïe dit ici, « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses dans le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. » Regardez comme c'est beau. Ésaïe parle de Zabulon et de Nephtali. Alors Zabulon, c'est pas lui. Il ne faut pas le confondre, ça n'a rien à voir. Zabulon et Nephtali, c'était deux des 12 tribus d'Israël qui se situaient dans le royaume du Nord. Voilà, donc en haut de la carte ici. Et ce petit indice, il nous permet de comprendre que cette prophétie d'Ésaïe, d'un sauveur à venir, ne répond pas seulement au contexte géopolitique de l'époque. Pour le voir, il faut aller dans le Nouveau Testament, près de huit siècles plus tard, donc on est aux alentours de l'an 30. Jésus a été baptisé par Jean, il vient d'être tenté par le diable au désert et il va démarrer son ministère public. Ça, on peut le lire en Matthieu 4. Et comment démarre son ministère public? Il démarre comme ceci. Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer « Changez radicalement » ou « Repentez-vous », c'est la même chose, « car le règne des cieux s'est approché. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Ésaïe n'annonce pas le sauveur du petit royaume de Juda aux prises avec ceux qui assiègent sa capitale, en tout cas pas seulement. Ésaïe annonce le règne universel et éternel du Messie qui doit venir. « Changez radicalement, dit Jésus, car le règne des cieux s'est approché. » L'ennemi qui t'assiège est autrement plus redoutable que le roi d'Israël et le roi d'Aram. Après tout, est-ce que tu ne vis pas, toi aussi, comme un assiégé. Assiégé par tes peurs, par tes doutes, par ton angoisse du lendemain, par ta culpabilité réelle, parce que tu sais que tu as commis des erreurs, des fautes, accablé et assiégé par tes blessures passées. Assiégé par un ennemi qui est invisible des autres, mais que toi tu connais bien. Et en fait, c'est pour te libérer de cet ennemi-là que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour créer une religion de plus dans le monde. Il n'est pas venu pour te contraindre à te lever le dimanche matin pour aller à l'église et accomplir tout un tas de rites, tous plus étranges les uns que les autres, à commencer par celui-là ou celui-ci. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour te délivrer des mains d'un ennemi redoutable qui s'est logé à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ce qui te met en mouvement. Cet ennemi, il te paralyse, il t'enchaîne, il t'empêche d'avancer. Et pire que tout, quand tu tires le fil et que tu regardes où il t'emmène, si tu regardes où il t'emmène, si tu ouvres les yeux franchement, tu le vois, il t'emmène vers la mort. Si nous sommes ici ce matin, comme chaque dimanche, c'est pas pour accomplir notre devoir de bon chrétien. C'est pas pour plaire à un Dieu fâché. C'est même pas par habitude, même si on en a l'habitude. Si nous sommes ici ce matin, c'est en réponse à un Dieu qui est venu jusqu'à nous et qui nous a aimés le premier. Et on vient en fait pour lui dire que nous aussi, on l'aime, qu'on est reconnaissant, reconnaissant pour la délivrance, pour le salut qu'il nous a fait vivre, pour la lumière qu'il apporte sur notre chemin de vie, pour notre péché qu'il a porté sur lui à la croix et qui nous rend libres de toute condamnation. Et tout ça, on en a parlé ce matin, on en a parlé pendant la Sainte Cène, on en a parlé pendant le baptême, Anaël en a parlé pendant son témoignage. Alors peut-être que toi, tu es indifférent à Dieu, ou peut-être même que tu n'es pas indifférent et que tu le détestes parce que tu as vécu des choses terribles et que tu ne comprends pas comment un Dieu qu'on dit tout-puissant a pu laisser l'horreur arriver dans ta vie. Et parfois, on regarde les gens autour de nous à l'église et on a l'impression qu'en fait, ils ne peuvent pas nous comprendre parce qu'ils sont propres sur eux, ils sont bien habillés, ils ont un nœud papillon, tout ça, voilà. Leur vie semble lisse, sans accrocs. On croit que l'église, c'est un lieu où les gens bien portants viennent se bercer les uns les autres dans la douce lumière de Noël, dans l'image d'Épinal de la crèche, mais qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité du monde qui nous entoure, avec le froid et la solitude qui étreint les cœurs, avec la guerre qu'il y a entre les pays et dans les foyers. Eh bien, c'est à une Jérusalem assiégée qu'Ésaïe a dit « Un enfant nous est né ». Des gens au parcours cabossé et difficile, vous en avez devant vous, derrière vous et à côté de vous. Mais au milieu du chaos, alors qu'ils étaient aussi perdus que les Judéens devant les rois d'Aram et d'Israël, Jésus est venu à leur rencontre et les a invités à lui faire confiance. Ils ne se sont pas tournés vers des solutions humaines qui étaient là, peut-être autour d'eux. Je vais aller voir le roi d'Assyrie, voir s'il peut faire quelque chose pour moi, et qui finalement les a emmenés à leur perte. Ils se sont tournés vers ce Dieu qui leur tendait la main. Et Dieu les a tirés de là, parce que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière, dit Ésaïe. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. C'est pas seulement pour Judas qu'Ésaïe dit ça, c'est pour chacun d'entre nous. Repentez-vous, dit Jésus, car le règne des cieux s'est approché. On est nombreux dans cette salle à avoir vécu cette expérience de salut, par des voies différentes, parce que Dieu nous rejoint tous d'une manière singulière, mais cette même expérience de Jésus qui vient éclairer l'obscurité de notre vie, qui vient nous retirer de notre puits d'angoisse existentielle, qui vient apaiser notre peur du lendemain, qui vient nous offrir une espérance qui s'étend jusque dans l'éternité et qui nous permet de maintenir nos ennemis à distance. Et la dernière personne en date, à ma connaissance, à avoir vécu cela, même si elle est au tout début de ce chemin, c'est Anaël. C'est ce qu'elle a manifesté ce matin par son baptême. Alors moi, ma question, c'est qui le prochain? C'est qui la prochaine? On va prier. Seigneur, tu n'es pas venu chercher les bien portants. Tu es venu chercher ceux qui sont malades. Tu es venu chercher ceux qui se reconnaissent malades. Et c'est ça l'histoire de la repentance. C'est oser se regarder en face et se reconnaître malade. Seigneur, à celui qui se reconnaît malade, celui qui reconnaît qu'il ne fonctionne pas droit, que ses décisions sont souvent à côté de la plaque, que même en pensant faire le bien, il se rend compte qu'en fait, il a fait le mal, qu'en pensant prendre la bonne direction, en fait, il s'est fourvoyé dans une impasse. Celui qui reconnaît cela et qui cherche en toi le salut, le trouve. Parce que tu es généreux. Parce que tu ne refuses pas d'ouvrir la porte à qui vient y frapper. En fait, c'est toi qui frappes à la porte de notre cœur. C'est toi qui nous as aimés le premier. Toi, tu n'as pas attendu qu'on soit bon. Tu n'as même pas attendu qu'on te cherche pour mourir à notre place à la croix, pour mourir pour nous, pour que nous, nous soyons libérés de cette emprise du péché qui nous étreint, qui nous contraint, qui nous empêche d'avancer, qui nous mène à la mort, à la condamnation, parce que tu es un Dieu saint et un Dieu juste qui ne supporte pas le mal. Tu ne supportes pas le mal chez les autres, tu ne supportes pas le mal non plus chez nous. Et c'est pour ça que tu as envoyé ton Fils, pour que ce mal soit porté par lui et que nous soyons revêtus de sa justice. Et c'est un cadeau, c'est une grâce. C'est un cadeau qu'on reçoit par la foi. Seigneur, je veux te prier ce matin pour tous ceux qui sont loin de toi et qui connaissent cette angoisse, qui connaissent ce vide existentiel, qui connaissent cette sensation d'être séparés de toi et qui peut-être n'ont pas encore conscience que c'est toi le remède, c'est toi dont ils ont besoin. C'est toi qui peux combler leur cœur. C'est toi qui peux leur apprendre à mener une vie droite parce que tu es de bons conseils, parce que tu es le Dieu de la vie, parce que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, que toi tu sais comment tout ça fonctionne. Et tu nous le révèles, tu nous l'as révélé généreusement par ta parole. Seigneur, je te prie pour chacune de ces personnes, pour que ce matin ce vide puisse être comblé. De manière surnaturelle, Seigneur, peut-être même qu'ils ne te cherchent pas, eh bien révèle-toi à eux quand même. Seigneur, je te prie de briser les barrières ce matin et de leur faire goûter qui tu es dans les semaines à venir, qu'ils puissent goûter qui tu es. Et Seigneur, si quelqu'un est un tant soit peu réceptif à ce qui vient d'être partagé, qui vient de toi, eh bien ne le laisse pas tranquille. Viens le visiter dans son quotidien par des petites choses où il pourra te reconnaître, par des rêves peut-être la nuit, où il pourra se dire « c'était bizarre ce truc quand même ». Seigneur, tu frappes aux portes, que les gens qui sont à l'intérieur puissent t'entendre. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, je vais réinviter